Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver en ta parole et vérité. C'est vrai, j'en dis, c'est la vérité. Il n'y a pas de vérité plus importante que celle que Dieu nous donne, qui est donnée à travers sa parole. Cette parole qui est très importante pour nous, parole qui doit éclairer ma vie, parole qui doit être l'enseignement le plus intelligent, le plus beau que je puisse recevoir, et l'enseignement qui doit me transformer. Il ne faut pas que la parole de Dieu que nous puissions donner soit une parole qui tombe sans porter du fruit. Dans Isaïe chapitre 55, il est dit que de même que la pluie tombe sur le sol et ne peut pas ne pas porter du fruit, il faut que la parole de Dieu qui descend sur terre porte aussi du fruit. Et cette parole de Dieu doit porter du fruit dans mon cœur et dans ma vie. Et j'espère que cette émission, que nous essayons de vivre de la manière la plus simple qui soit, peut aider les uns et les autres à essayer de mieux comprendre qui est Dieu, qui je suis moi-même comme être humain, comme créature de Dieu. Et quel est le bonheur que Dieu a prévu pour moi? Et c'est important parce qu'il faut qu'on puisse donner un sens à notre vie. Et le sens de notre vie, c'est Dieu. Sans Dieu, la vie n'a pas de sens. Alors nous sommes dans la parabole du bon berger. Jésus-Christ annonce d'abord, je suis le bon berger, il y a des bandits qui sont venus avant moi. Les apôtres ne comprennent pas bien ce qu'il dit. Hein, c'est Jean chapitre 10, verset 6. Jésus leur donna cette comparaison, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Aussi, de nouveau, Jésus leur dit. Et Jésus leur dit, là maintenant, pour qu'ils puissent comprendre. Je suis le bon berger, ils écouteront ma voix. Aussi, de nouveau, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus sont des voleurs et des bandits, et les brebis ne les ont pas écoutés. Je vous rappelle 1 Timothée 2, 5, un passage biblique, hein, dans lequel il est dit, première épître à Timothée, chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus-Christ est la porte, Jésus-Christ est le bon berger, et Jésus-Christ est le seul médiateur. Quand on dit seul médiateur dans Timothée 2,5, c'est la même chose que quand Jésus-Christ dit « Je suis la porte ». Il y a une seule porte par laquelle on peut entrer dans le salut. Et cette porte du salut, c'est Jésus lui-même. Et c'est en passant par Jésus que je serai sauvé. Et le seul médiateur dans l'ordre du salut, c'est Jésus et Jésus seul. Alors il y a des gens, vous voyez, qui prennent ce verset pour essayer de montrer aux catholiques que les catholiques, avec Marie médiatrice, là, sont dans l'erreur. Non, non, il faut comprendre une chose. Nous sommes tous d'accord avec ce verset biblique, depuis le pape, 2000 ans qu'on existe, tout ça, en montrant qu'il y a un seul médiateur dans l'ordre du salut. Mais il n'y a pas une seule médiation sur la terre. Il y a plein de médiations. Il y a des médiateurs, Nelson Mandela était médiateur dans plusieurs conflits. Il y a plein de médiateurs qui sont là, il y a l'ONU, tout ce que vous voulez, qui font des médiations à droite et à gauche. Et moi-même, à travers cette émission, je suis un médiateur que vous utilisez parce que vous pensez que je peux vous donner quelque chose pour aimer davantage Dieu. Mais en tant que médiateur, je ne suis pas médiateur dans l'ordre du salut, en ce sens où je ne vous donne pas le salut. Mais j'essaie de vous donner une bonne compréhension des Saintes Écritures afin de mieux mener votre vie chrétienne. Et c'est pour ça que dans 1 Timothée 2,5, il est clair que Jésus-Christ est le seul médiateur dans l'ordre du salut. Marie n'est pas médiatrice dans l'ordre du salut. Marie est médiatrice, hein, dans un autre ordre, dans l'ordre du fait qu'elle est notre mère. Jean 19, 27, voici ta mère. Et en tant qu'elle est ma mère, elle est médiatrice. Une mère aussi est médiatrice sur terre pour te permettre d'avoir la santé, de réussir ta vie et même par rapport à Dieu. Souvent, même là, les gens ont commencé à dire Jésus étant assis sur les genoux de leur mère. Et leur mère devient médiatrice par rapport à Jésus. Pas médiatrice dans l'ordre du salut, mais médiatrice dans l'ordre de la connaissance de Dieu et de la foi chrétienne. Donc, je reprends mon passage donc, de Jean chapitre 10. Hein. Aussitôt de nouveau, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus sont des voleurs et des bandits, et les brebis ne les ont pas écoutés. Alors, on a vu que tous ceux qui sont venus, comme les Abraham et les Moïse qui ont annoncé Jésus-Christ, ne sont pas des bandits et des voleurs. Mais tous ceux qui sont venus et qui ont voulu prendre la place de Dieu, la place du Sauveur, sont des voleurs. J'avais cité par exemple Moon, qui est un homme qui avait une église monstrueuse et très grande, et qui de temps en temps faisait lui-même des mariages. Il mettait des hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et il mariait les gens comme ça ensemble. Ce qui n'a pas de sens, qui est complètement aberrant. Et Moon se prenait pour le sauveur. Donc tous ces gens-là, eux, sont réellement des bandits et des voleurs. Jésus-Christ dit, je suis la porte. Celui qui entrera par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, il trouvera sa nourriture. Il pourra être sauvé. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est la nouvelle naissance. On revient toujours à la même chose. Hein? Ce petit verset-là est très important. Donc, on va donc dans Jean, ce passage, que Jésus-Christ, là, il est la porte. Et en tant que porte, en passant par lui, je serai sauvé. Le salut, c'est la nouvelle naissance, donner sa vie au Christ. Maintenant, il dit, il sera sauvé, et il ajoute un autre petit passage, il pourra entrer et sortir, il trouvera sa nourriture. Grâce au berger, le bon berger, Jésus-Christ le bon berger, je vais trouver le salut et je vais trouver la nourriture. Quelle nourriture? Quelle est la nourriture qui nourrit le chrétien? Et je pense que vous savez déjà, après avoir écouté le Père de Marie, que le Christ nous donne dans les Saintes Écritures trois nourritures. Ces nourritures-là qu'il les donne, c'est Jésus lui-même. Première nourriture, je vous rappelle, la parole de Dieu. La parole de Dieu qui va venir nourrir ma tête, mon intelligence. Deuxième nourriture, l'Eucharistie, qui va venir nourrir mon cœur. Troisième nourriture, la volonté du Père, qui va s'occuper de mon corps. Je reprends. Hein. On avait discuté une fois sur les trois nourritures, mais je crois il y a déjà longtemps. Je vais reprendre un petit peu pour préciser. Oui. L'être humain que je suis, un être humain, un homme sur terre, implique une âme et un corps. Mon âme implique deux facultés. Mon âme spirituelle qui va impliquer l'intelligence et la capacité d'aimer. Et mon corps. Mon intelligence, ma capacité d'aimer, qui est à l'image de Dieu, c'est la vie spirituelle qui est en moi, c'est mon esprit hein, que Dieu m'a donné, intelligence, capacité d'aimer, et mon corps. Et ces trois réalités ont besoin de se nourrir. On a besoin de nourrir son corps, ça c'est clair. On nourrit son corps, les jeunes diront la chop, la nyama, la hit, la damé, tout ça. Les étudiants, le TAPS, les beignets haricots. Donc, mon corps se nourrit. Il faut que je nourrisse mon corps. Mais maintenant, je dois aussi nourrir mon intelligence et mon cœur. Et mon intelligence, à moi, être humain, se nourrit de quoi? De vérité. C'est la vérité qui nourrit l'intelligence de l'homme. Et ma capacité d'aimer grandit en aimant. Et c'est en vivant des amitiés vraies que mon cœur grandit. Toutes les amitiés fausses vécues par des hommes et des femmes sont des amitiés qui détruisent le cœur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez rencontrer des hommes et des femmes qui vont vous dire, mon père, moi, je ne veux plus aimer, donc je suis blessé, ça ne va pas. Et c'est souvent parce que justement, il y a une éducation à la vie et à l'amour qui est mal vécue. Je vous rappelle, parce que c'est une vérité fondamentale, que vous qui cherchez à vous marier, on se marie d'abord avec un ami. C'est un ami qui devient un fiancé. Quand je dis qu'il devient un fiancé, l'ami reste ami. Et c'est parce qu'il y a une amitié entre toi et moi que nous vivons cette amitié, que dans cette amitié, nous envisageons de vivre cette amitié d'une autre manière en envisageant un mariage. Mais c'est l'amitié là qui est présente et qui va aboutir dans les fiançailles, puis dans le mariage. S'il n'y a pas cette amitié d'abord, qu'il n'y ait jamais de fiançailles et jamais de mariage, que les choses soient claires. Sinon, vous allez briser votre cœur, vous allez souffrir. Et ensuite, vous mènerez une vie de couple qui sera très bizarre. Et vous, les couples qui m'écoutez aujourd'hui, si dans votre vie de couple, il y a des problèmes, commencez d'abord par essayer de voir, est-ce que vous vous aimez? Y a-t-il une amitié entre vous? Et s'il y a une amitié entre vous, faites grandir cette amitié. Prenez du temps pour partager ensemble, pour aller vous balader. Si vous avez un peu d'argent, passez un week-end à Kribi ensemble. Et puis débrouillez-vous, retrouvez-vous, vivez ensemble, soyez des complices, aimez-vous. C'est là le secret de la réussite. Sinon, là, je ne vois pas comment vous allez vous en sortir. Et donc, l'intelligence de l'homme a besoin de vérité. Aujourd'hui, il est clair que quand on voit, il y a certains problèmes par rapport à la vérité. Hein? Vous avez des écoles dans certains pays qui enseignent des choses. Moi, personnellement, si j'avais des enfants, je n'en verrais pas recevoir des enseignements tels que ceux qu'on reçoit aujourd'hui dans certaines écoles. Je pense à la France, le gender, tous ces trucs. Et c'est clair qu'au bout d'un moment, la vérité, il faut aussi que vous, les parents, vous soyez capables d'essayer de voir quelle est la vérité qu'on met dans la tête de mon enfant. Discerner pour voir quels sont les gens avec qui il marche. Discerner l'Internet et ce qu'il regarde. Discerner la télévision. Discerner pour voir quelles sont les vérités qui entrent dans la tête de mes enfants. Donc, ensuite, deuxièmement, capacité d'aimer. Hein, et puis, mon corps qui se nourrit. Jésus-Christ, lui, nous donne trois nourritures. Et comme par hasard, ces trois nourritures vont être là, la parole de Dieu pour nous, c'est la vérité. Jean 17, 17, le titre de l'émission. Ta parole est vérité. Et pour nous, qu'est-ce qui est la vérité qui va nourrir mon intelligence? C'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui est donnée par Jésus-Christ qui doit entrer dans ma tête et qui doit être la vérité qui va diriger ma vie. Maintenant, mon cœur m'a été donné pour aimer, c'est clair. Mais la personne qui est la plus aimable sur terre et la plus gentille de toutes les personnes qu'on doit aimer, c'est Jésus. Et l'Eucharistie, c'est bien Jésus. Jésus-Christ est présent réellement dans l'Eucharistie. Ceci est mon corps. C'est vrai, c'est son corps. Et c'est pour ça que je vis le corps à corps. Je vous ai dit tout à l'heure que dans une amitié entre deux personnes, cette amitié va aboutir à des fiançailles puis à un mariage. Eh bien, le corps à corps avec Jésus-Christ, c'est l'aboutissement du corps à corps parce qu'il y a une amitié réelle avec Jésus. Et mon cœur va s'épanouir pleinement dans cette relation avec Jésus Eucharistie, à travers la messe, le corps à corps, à travers l'adoration du Saint-Sacrement, à travers une prière, à travers des heures ou des minutes du temps qu'on passera au pied du tabernacle pour être. Faire un corps, Seigneur, pour faire ta volonté. Je crois que c'est le chapitre 10, versets 5 à 7. Tu m'as fait un corps, Seigneur, le corps, pour faire ta volonté. Et la nourriture, mon corps m'est donné pour utiliser cette nourriture qui est la volonté du Père. Quand dans mon corps, je réalise la volonté du Père, je grandis, je m'ennoblis. Quand j'accepte de dire à un garçon qui me chatte que gars, c'est pas possible parce que moi, je suis chrétienne, tu grandis. Quand tu refuses de signer un papier pour voler un peu d'argent à droite et à gauche, tu grandis, ça te nourrit. Mon corps m'est donné pour faire la volonté du Père. Mon cœur m'est donné pour recevoir l'Eucharistie. Mon intelligence m'est donnée pour la parole de Dieu. Voici les trois nourritures que le Christ nous donne. La parole de Dieu, je vous rappelle, c'est Matthieu chapitre 4, le verset 4. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'Eucharistie, Jean 6, 55. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. La volonté du Père, Jean 4, 34. J'ai une nourriture autre que la vôtre, c'est de faire la volonté de mon Père. Le bon berger, Jésus-Christ, qui nous dit « Je suis la porte, en passant par moi, vous serez sauvés. Je reçois le salut par Jésus et Jésus seul, parce que Jésus-Christ est le seul nom par lequel nous sommes sauvés. Le nom devant qui tout genou fléchit. Et Jésus-Christ est lui le seul sauveur. Et en passant par Jésus-Christ qui est la porte, je reçois le salut. Et maintenant que j'ai reçu ce salut et cette vie divine, parce que la nouvelle naissance me donne une nouvelle vie, la vie divine. Et cette vie divine que je reçois va impliquer maintenant aussi ces nourritures. De même que mon père et ma mère m'ont donné la vie humaine et j'ai bu le lait de ma mère et j'ai mangé tout ce que j'ai mangé pour être ce que je suis aujourd'hui, hein, la vie humaine implique des nourritures et la vie divine implique aussi sa part de nourriture. Et qui nous donne ces nourritures? C'est le bon berger. Et comme toujours, on n'en sort pas, mes amis. Dès que tu vas quitter l'Église catholique, tu n'auras plus la parole de Dieu, tu n'auras que la Bible. Et en plus, je vous rappelle, la Bible des autres églises, qui n'a que 66 livres, qui est une Bible diminuée, parce que la Bible a 73 livres. L'Eucharistie, aller dans les autres églises, la seule église dans laquelle nous, les catholiques, nous reconnaissons que quelqu'un transforme le pain dans le corps du Christ, ce sont les orthodoxes. Dans l'église orthodoxe, un prêtre orthodoxe transforme le pain dans le corps du Christ. Mais dans l'église, chez les protestants et dans les autres églises, les pasteurs ne transforment pas le pain dans le corps du Christ. Il n'y a pas de sacrement de l'ordre. Moi, j'y peux rien. Et c'est pour ça, la volonté du Père, et c'est pour ça que ces nourritures nous sont données toujours la même chose. C'est en revenant à l'Église, en revenant au bon berger qui est Jésus, qui a transmis son pouvoir à Pierre, que je serai dans le milieu dans lequel je vais pouvoir recevoir tout ce qui m'est nécessaire pour pouvoir mener une véritable vie chrétienne et prendre tous les moyens que le Christ me donne pour me sanctifier, pour grandir. Donc, on avance toujours dans Jean 10. Je suis la porte. Celui qui entrera par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir. Il trouvera sa nourriture. Le voleur ne vient que pour prendre, égorger et détruire. Alors que moi, je suis venu pour qu'on ait la vie en plénitude. Le salut nous donne la vie divine. La vie en plénitude. Jean 10, 10. Cette vie en plénitude nous est donnée donc par Jésus-Christ, qui est mort pour nous sur la croix. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie. Et en recevant Jésus-Christ, nous recevons la vraie vie. Le voleur ne vient que pour prendre, égorger et détruire, alors que moi je suis venu pour qu'on ait la vie et la vie en plénitude. Je souhaiterais aujourd'hui quand même qu'on puisse essayer d'avoir un certain discernement, notamment par rapport à certains hommes qui s'appellent hommes de Dieu, qu'on appelle pasteurs, et qui détruisent la vie des gens. Il est clair qu'aujourd'hui, objectivement, et il faut le dire, il faut parler, vous avez des pasteurs qui détruisent des vies de couple. Vous avez des pasteurs qui ont divisé des hommes et des femmes dans une même maison. Et si aujourd'hui, en m'écoutant sur les ondes, il y a une femme qui a quitté son mari parce qu'un pasteur lui a dit qu'il est sorcier et ci et ça, il faut que tu saches, ma fille, que ce que tu fais n'est pas la volonté de Dieu. Et que Dieu ne peut pas être d'accord avec ton comportement. Et que si tu réfléchis un peu et que tu invoques l'Esprit Saint, tu verras que ce que je te dis est vrai. On ne peut pas séparer un homme et une femme. On ne peut pas séparer des parents et des enfants. Quand vous voyez des enfants aujourd'hui de 16 ans, 17 ans, qui disent à leurs parents que vous êtes des menteurs, vous ne connaissez rien, moi j'ai la vérité. Enseignez par qui, mes amis, et par quoi? Voici, détruisent. Et vous avez aujourd'hui des gens à qui on met sa confiance et qui vous détruisent. Pareil pour les marabouts. Ces marabouts qui vous disent que c'est ton oncle, c'est ta tante, c'est des gens qui détruisent des foyers, qui détruisent des familles. Et il faut avoir un discernement aujourd'hui. Je souhaiterais, s'il y a des gens aujourd'hui qui m'écoutent, vous qui avez donné tout votre argent à un pasteur, à partir d'aujourd'hui, arrêtez. Tu n'as pas à donner tout ton argent à un pasteur, que les choses soient claires. Et il ne faut pas qu'un pasteur commence, un pasteur n'a même pas le droit de savoir quel est ton salaire. Ton salaire, c'est ton salaire, qui regarde ta vie privée, c'est toi qui gagnes ton argent. C'est ton argent, ce n'est pas l'argent du pasteur. Et maintenant que tu as ton argent, gère ton argent comme tu veux. Ce que Dieu dit, ce que l'Église dit, c'est qu'il y a 10% qui ne t'appartiennent pas. Ces 10%, c'est normal que tu les reverses à l'Église. Ça, on est d'accord. Les 90% là t'appartiennent. Maintenant, si tu penses que les 90% là doivent revenir au pasteur, tu es libre. Mais à mon avis, si Dieu te donne un travail, et si Dieu te donne une famille, des enfants, hein, il faut que toi-même tu sois capable de gérer ta vie. Si tu as un peu d'argent, tu as le droit d'acheter un terrain et de construire une maison. Tu as le droit d'avoir une voiture. Tu as le droit de prendre des vacances. C'est ton argent, c'est ta vie. Et je ne dois jamais laisser une personne autre que moi, mon mari, ma femme, éventuellement si on est ensemble, gérer mon argent. Ça n'a pas de sens. Et un pasteur qui gère ton argent, c'est un pasteur qui te détruit. Tu es devenu relatif à lui, ce n'est pas normal, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et aujourd'hui, nous devons être capables de discerner et de comprendre quels sont ces pasteurs qui sont là, qui sont des pasteurs, qui sont des gens mais qui détruisent les familles, qui égorgent, qui prennent. Le voleur ne vient que pour prendre. Il est venu pour prendre ton argent. Argent, argent. Hein? Égorger, détruire. Le Christ, lui, est venu pour qu'on ait la vie et la vie en plénitude. Je suis le bon berger, Jean 10, 11. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ est mort. Je ne sais pas si les pasteurs aujourd'hui seraient capables de mourir pour leurs brebis, mais c'est ce qu'on devrait faire à la suite du Christ, chacun d'entre nous. Alors, on n'est pas venu pour se servir des brebis. On est venu pour être relatif aux brebis et aider les brebis à grandir et à devenir des brebis grâce pour Dieu. Pas grâce physiquement avec un gros ventre, mais grâce de spiritualité, de charité, de foi et d'espérance. Le salarié est tout différent du vrai berger. Les brebis ne sont pas siennes. Et lorsqu'il voit venir le loup, il s'enfuit, laissant là les brebis. Le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est là seulement pour le salaire et les brebis ne l'intéressent pas. Vous voyez comment Jésus-Christ est clair et net dans son discours? Le salarié, lui, il est là, il travaille. À la fin, il doit avoir son argent. Il n'est pas là pour que tout ça marche bien ou marche pas bien. Il est là pour son argent. Il n'est pas là pour mourir pour le travail qu'il fait. Et le jour où ça devient dangereux, gars fait demi-tour, il part. Le salarié est tout différent du vrai berger. Les brebis ne sont pas siennes. Et lorsqu'il voit venir le loup, il s'enfuit laissant là les brebis. Bon, comme on parle de loup, retournons encore un petit peu dans les loups. Je vous lis Actes chapitre 20, verset 28. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes. Actes chapitre 20, verset 28. Dans lequel on parle un peu des loups. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Hein? Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Les évêques sont responsables du troupeau. Le premier évêque, c'est l'évêque de Rome. C'est lui qui est responsable de tout le troupeau. Il a nommé des évêques qui sont eux-mêmes responsables des diocèses des brebis. Donc, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Il donne sa vie pour ses brebis et Jésus-Christ est mort, il a versé son sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Je relis et je vais vous dire à qui je pense en lisant un texte comme celui-ci. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Du milieu de vous. C'est au sein de l'Église que va naître des gens qui vont apporter des paroles perverses. Et il est clair que je ne peux pas ne pas penser à Martin Luther. Martin Luther, le fondateur des protestants, était un prêtre catholique. C'est du milieu de nous que s'est levé quelqu'un qui est sorti et qui est parti. Je vous lis aussi 1er épître de Jean, chapitre 2, verset 17. Jeunes enfants, c'est verset 18 et 19, pardon. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière, comme vous avez entendu, qu'un antichrist venait. Voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Toujours la même chose. Donc, du milieu de vous sortiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et là, on voit comment le salarié qui garde les brebis, à partir du moment où le loup arrive pour prendre les brebis, il ne va pas, lui, s'inquiéter pour essayer de sauver les brebis. Si le loup arrive, lui, il fuit, il garde sa vie pour lui, il ne donne pas sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger et je connais les miens comme ils me connaissent, tout comme le Père me connaît et moi je connais le Père. Et je donne ma vie pour les brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ce parc. Celles-là aussi, je dois aller les chercher. Elles entendront mon appel et ne feront plus qu'un seul berger et un seul troupeau. Jésus-Christ nous fait comprendre que c'est important de pouvoir aussi permettre à d'autres brebis d'entrer dans sa bergerie. Et celles-là aussi, je dois aller les chercher. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans ce parc. Et ces brebis-là, c'est toi et moi qui devons nous-mêmes, à travers notre désir et souci d'évangélisation, évangéliser nos frères pour qu'ils puissent revenir dans le troupeau de Jésus. Celles-là aussi, je dois aller les chercher. Elles attendront mon appel. Elles ne feront plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour ensuite la reprendre. Personne ne me la prend. C'est moi qui la donne de moi-même. J'ai tout pouvoir pour la donner, mais aussi pour la reprendre. C'est l'instruction que j'ai reçue de mon Père. Et là, il nous fait comprendre comment, dans sa relation avec son Père, il a accepté de venir sur terre. Et c'est lui qui va donner sa vie. C'est volontairement que le Christ est venu sur terre. Et c'est volontairement qu'il a choisi de mourir pour nous. Je vous rappelle la 8e station du chemin de croix, les femmes de Jérusalem. Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. Ne pleurez pas sur moi, Jésus. Moi, je vais à la croix, je vais mourir. Et en mourant, je fais quelque chose qui est bien. Je vous donne le salut et la vie. Mais pleurez sur vous et vos enfants, parce que vous et vos enfants, vous n'avez plus le droit de vivre, comme si moi, Jésus-Christ, je n'étais pas venu. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour ensuite la reprendre. Et c'est quand même beau ce lien entre le Père et le Fils qui dit à son Père, « Père, comme tu vois, comme le plan de Dieu sur Adam et Ève a échoué à cause de Satan, moi, laisse-moi descendre sur terre, je vais offrir ma vie pour que le plan, ton plan à toi sur l'homme et la femme redevienne ce que tu as voulu, qu'ils puissent recevoir la vraie vie. Je vais aller donner ma vie pour ça. » En attendant cela, les Juifs se divisèrent de nouveau. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est dérangé, pourquoi restez-vous à l'écouter ?» Mais d'autres disaient, « Quand on a un démon, on ne parle pas de cette façon. Et vous croyez qu'un démon peut ouvrir les yeux des aveugles ?» Et on voit le lien, vous voyez, avec Jean 9, « Ouvrir les yeux des aveugles. » Et à travers les œuvres de Jésus, eh bien, on voit que les gens commencent quand même à se poser des questions. Et il y a des gens qui vont toujours persévérer et douter. Il y a des gens qui, même après avoir écouté le Père et Marie 35 000 fois, ne changeront jamais. Il y a des gens qui ont écouté le Christ, ils n'ont jamais changé. Et ils vont dire comme lui, il a un démon, ils vont trouver des raisons bidons, pour essayer de justifier leur non-fidélité à la parole de Dieu. En attendant cela, les Juifs se divisèrent de nouveau. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est dérangé. Pourquoi restez-vous à l'écouter ? Mais d'autres disaient, quand on a un démon, on ne parle pas de cette façon. Et vous croyez qu'un démon peut ouvrir les yeux des aveugles ? On eut alors à Jérusalem la fête des dédicaces, c'était l'hiver. Comme Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon, les Juifs firent cercle autour de lui et lui dirent, jusqu'à quand vas-tu nous tenir en suspens? Si tu es le Messie, dis-le clairement. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Vous vous rappelez cette histoire, non? Du pauvre Lazare et du mauvais riche. Et après donc, le mauvais riche aura un grand deuil, puis va se retrouver en enfer. Le pauvre Lazare, les chiens venaient lécher ses ulcères, à la porte du mauvais riche qui faisait des bombances et qui n'a jamais été attentif à ce pauvre qui était là. Et il se retrouve au paradis. et lui, le mauvais riche, en enfer. Et il dit à Abraham, Abraham, envoie Lazare, envoie quelqu'un là, j'ai mes frères qui sont là pour qu'ils se convertissent. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils écoutent. Vous avez vos prêtres, vous avez l'Église, vous avez les missions, vous avez le Père et Marie, vous avez tous ces gens qui vous donnent l'Évangile d'aujourd'hui, qu'ils les écoutent. Et si vous ne voulez pas nous écouter, tant pis. Vous êtes libre de croire ou de ne pas croire, de nous suivre ou de ne pas nous suivre. Les Juifs firent tout. Ils lui dirent, jusqu'à quand vas-tu nous tenir en suspens? Si tu es le Messie, dis-le clairement. Est-ce que Jésus-Christ n'a pas été clair? Jésus-Christ a été très clair. Jésus-Christ a montré d'une manière claire et nette qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur. Et pour que Jésus-Christ lui-même, les gens le sachent, le Père lui-même, Dieu le Père, du haut du ciel, trois fois, va faire retentir sa voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Et j'aurais aimé, moi, être là ce jour-là et entendre cette voix du haut du ciel, la voix du Père qui confirme que le Fils est bien son Fils, engendré, non pas créé de même nature que le Père. Et ce Fils qui est là, qui est bien le Messie qui doit venir. Si tu es le Messie, dis-le clairement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père disent clairement ce que je suis. Mais comme je vous l'ai dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Nous continuerons la suite de Jean 10. Ce passage, Jésus-Christ est le bon pasteur, Jésus-Christ est la porte. Celui qui passe par lui sera sauvé, il entrera et sortira. Et lui, il conduira les brebis vers les gras pâturages pour donner la parole de Dieu, l'Eucharistie, la volonté du Père. Remercions Jésus le bon pasteur. Et que chacun d'entre nous, nous puissions réellement devenir sa brebis et accepter de le suivre d'une manière totale et radicale, en prenant tous les moyens qu'il nous donne pour pouvoir nous sanctifier, l'aimer toujours davantage et aimer aussi davantage nos frères. Loué soit Jésus-Christ. Bye bye.